Bonjour à tous. Sommes heureux de vous retrouver encore une fois ce dimanche, même si c'est encore de loin, loin des yeux, mais pas loin du cœur. Nous en sommes, si je compte bien, dans la cinquième semaine de confinement. Et je ne sais pas pour vous, mais pour nous ici, pour Yvonne et moi, ça commence à tirer sur les organismes. Il y aurait comme une lassitude ou une sorte de fatigue qui s'installe. Pas vraiment musculaire, mais plutôt nerveuse, faite d'inquiétude et d'incertitude, comme un poids que l'on traîne derrière soi ou que l'on porte sur soi. J'imagine, moi, la fatigue des familles et surtout des parents avec des jeunes enfants. Cette fatigue et cette charge de tout devoir gérer à la maison. Je sens que c'est un poids, c'est un poids important. Peut-être que l'image du rocher que l'on pousse devant soi sur une montagne et dans la pente, comme vous l'avez sur l'écran, si vous l'avez, serait peut-être plus parlante pour certains d'entre nous. Et dans cette ambiance un peu de pesanteur, de lourdeur, de poids, il y a une parole de Jésus qui est venue à mon esprit, et j'aimerais vous accueillir ce matin avec cette parole. « Venez à moi, dit Jésus, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est dans Matthieu 11, verset 28. La version du semeur parle de ceux qui sont accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus nous invite simplement à venir à lui. Il ne parle même pas de déposer son fardeau ou de couper les sangles du sac à dos qui est trop lourd. Non, rien d'autre que de venir à lui. Après, il parle quand même, dans Matthieu 11, 28, il parle d'un joug, mais qui sera léger et doux, comme une toute petite charge. Et ce petit poids que l'on porte avec Jésus, c'est le poids de la grâce, le poids plume de son pardon, de son amour et de l'accueil de Dieu en Jésus-Christ. Et puis, en parlant de poids que l'on traîne, que l'on pousse, comme d'un rocher en pleine pente, je pense à cette pierre qui fermait le tombeau et qui a été roulée. Et elle devait peser cette pierre, des tonnes. Mais comme cette pierre a été roulée, le Christ ressuscité nous accueille en roulant toutes nos pierres et tous nos poids que nous traînons derrière ou que nous poussons devant nous. Oui, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, tu nous appelles encore ce matin à venir vers toi, à venir à toi, à nous souvenir que la pierre du tombeau a été roulée, que le tombeau est vide, que tu es vivant au milieu de nous ce matin, présent dans nos maisons. Seigneur, tu sais là où nous sommes, chacun d'entre nous, en cette fin de semaine, tu sais aussi là où nous en sommes, physiquement, moralement, spirituellement. Et nous venons à toi, avec nos fardeaux, avec nos poids morts, avec nos inquiétudes et nos incertitudes. Et nous venons goûter à ton repos. Au repos de ta grâce et de ton amour, au repos de son tombeau ouvert, ouvert sur l'avenir, ouvert sur l'espérance, ouvert sur la vie. Seigneur, nous te remettons tout. Prends tout, Seigneur, allège-nous, apaise-nous, désaltère-nous, que la lumière de la résurrection puisse luire dans nos obscurités. En Jésus-Christ et par sa grâce. Amen.
Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi, mon âme, pour le rencontrer et
Lecture biblique dans Jean au chapitre 21. Quelque temps après, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » « Nous aussi, nous y allons avec toi, » lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?» C'était lui. « Rien, » répondirent-ils. « Jetez le filet du côté droit du bateau, » leur dit-il alors, « et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre retourna dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons. Et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger, leur dit Jésus. » Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu ?» Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua. Puis il fit de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection.
Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » ?»« Oui, Seigneur, lui répondit Simon. » « Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. »
Que l'horizon, tes
Alors que nous sommes quelques jours après Pâques, après la résurrection, il me semble que, justement, cette résurrection de Jésus n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Pour les gardes du tombeau, c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Il y aura des conséquences au niveau de leur plan de carrière. Mais c'est peut-être pas une aussi bonne nouvelle que ça pour un autre homme, pour Pierre. Alors bien sûr, il est heureux de cette résurrection. Quand il voit Jésus sur la plage, il se jette à l'eau pour le rejoindre. Peut-être s'agit-il d'ailleurs que d'une habitude prise pour Pierre. Dès que Jésus apparaît, il se met à l'eau. C'est comme ça. Mais en tout cas, il a l'air d'être heureux de voir Jésus. Mais en même temps, il y aurait comme un malaise. Nous savons, et Pierre le sait aussi, qu'il a nié connaître Jésus, et cela par trois fois, alors que le risque n'était pas bien grand. Et puis, il y a eu, selon l'évangile de Luc, cet échange de regards, après ce reniement, entre lui et Jésus. Et puis les pleurs de Pierre. Pas des larmes de crocodile, des vrais pleurs. Des pleurs d'un homme déçu de lui-même. Parce que Pierre se rend évidemment compte que malgré ses affirmations péremptoires, il n'a pas su résister à la toute première vague du danger. Lui, l'homme de tous les combats héroïques, toujours prêt à se jeter à l'eau pour son maître, à sortir l'épée en cas de coup dur, a fait marche arrière. On pourrait parler de la chute de Pierre. Mais personne ne l'a vu, il n'en a parlé à personne. Quelques jours sont passés, peut-être qu'avec le temps, tout peut s'oublier, comme disait Jacques Brel. Mais quand il rencontre Jésus sur la plage, on imagine le malaise. Il y a comme une ombre au tableau, évidemment. Une ombre sur leur relation, une ombre sur la confiance. Peut-il me faire encore confiance ? Se dit Pierre par rapport à Jésus. Et puis il se dit peut-être, est-ce que je peux encore me faire confiance ? Vous savez, il paraît que certains ont pensé que le chapitre 21 était un ajout inutile, que l'évangile de Jean pourrait très bien s'arrêter à la fin du chapitre 20. Mais ils ne se rendent pas compte que si le chapitre 21 n'avait pas été écrit, Pierre aurait été à jamais l'homme qui a renié Jésus, le lâche, le fuyard. Mais manifestement, ce n'est pas dans les habitudes de Dieu ni dans sa volonté de laisser les choses en l'état. Le chapitre 21 est là, est bien là, et il nous parle de la restauration de Pierre. Et il est extrêmement, en tout cas à mon avis, intéressant de voir comment Jésus va s'y prendre pour remettre ce pêcheur qui a trop souvent coulé à pic, comment il va le remettre sur pied, comment il va le restaurer, cet homme déçu de lui-même et en perte de confiance. On constate d'emblée que Jésus ne cherche pas la confrontation, en tout cas pas le choc frontal. Il n'agresse pas, il ne lui fait pas la morale, il ne lui fait pas de discours paternaliste. « Oh, tu m'as beaucoup déçu, mon fils, mais... » Non, il va restaurer Pierre avec énormément de délicatesse, de tendresse même, tout en restant aussi dans la vérité. Premièrement, une mise en situation. Jésus va d'abord faire une sorte, comme je l'ai dit, de mise en situation. Par de multiples rappels, il va faire revenir les souvenirs à la surface, mais avec beaucoup de discrétion. Il va d'abord poser une question. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » Ceux-ci, ou ceux-là, sont les autres disciples que Pierre a un peu chambrés quand il a dit quelques jours avant la mort de Jésus, « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le serai pas. Si tous les autres disciples seraient ébranlés, moi je ne le serai pas. » C'est Pierre qui a déclaré cela, et il faut s'appeler Pierre pour faire des déclarations comme celle-là. Et Jésus lui demande, en quelque sorte, s'il veut, s'il peut encore faire de telles déclarations. Et j'imagine que Pierre est touché par le souvenir de cette déclaration qu'il a faite et touché par le décalage par rapport à ce qu'il a dit dans la cour. « Non, je ne le connais pas. » Et d'ailleurs, quand Pierre répond à la question, il ne reprend pas la comparaison « Est-ce que tu m'aimes plus que ne le font ceux-ci ?» Non, il sait que c'est inutile. Il sait que ses vantardises sont tombées à plat quand un coq a chanté trois fois. Et puis, Jésus va lui poser trois fois la même question. On ne peut que voir la correspondance avec les trois reniements de Pierre. Et le dialogue rapporté par Jean le montre clairement. Les trois questions rappellent ces trois reniements, si bien qu'à la troisième question, Pierre est attristé. Pourquoi est-il attristé? Non pas parce que Jésus mettrait en doute son amour pour lui, mais parce que ça fait trois fois qu'il pose la même question et que Jésus fait manifestement référence au reniement. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Le brasier lui rappelle aussi son reniement, le brasier de la plage qui lui rappelle le brasero de la cour du souverain sacrificateur. Et Jésus, d'une manière très subtile et je crois en toute douceur, fait ressortir les souvenirs, même les souvenirs douloureux. Ce n'est pas, à mon avis, de la psychanalyse avant la lettre, c'est le fruit de la connaissance de l'âme humaine que Jésus possédait parfaitement. Pierre, comme tous les hommes et les femmes de son temps et d'une autre, a plutôt tendance à enfouir ses souvenirs, surtout les douloureux, et d'essayer d'oublier là où on les a enterrés. On pense que le malaise se dissipera comme cela, en le couvrant par autre chose, mais le malaise ne se dissipe pas dans l'enfouissement des fautes ou des faiblesses, mais dans leur mise en lumière. Et Jésus fait venir à la lumière de son amour le reniement de Pierre. Il faut que Pierre ait le courage de saisir cette perche tendue par Jésus. Se saisir de cette perche, c'est d'abord d'être honnête sur soi-même, sur lui-même pour Pierre, de reconnaître les décalages de sa vie, de reconnaître ses insuffisances. Mais Jésus veut qu'il prenne conscience aussi d'autre chose. Il l'appelle Simon, fils de Jonas, qui rappelle le jour où Jésus a appelé Pierre. Ce jour-là, 3 ans avant, André a conduit Pierre devant Jésus qui le regarde attentivement et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, eh bien on t'appellera Céphas, qui veut dire Pierre. » C'est l'appel de Pierre au service de Jésus, comme disciple de Jésus. Et donc, quand Jésus, sur cette plage du lac de Tibériade, l'appelle à nouveau Jonas, il y a comme un retour à son premier appel, à leur première rencontre. Jésus dit à Pierre en quelque sorte, « Te souviens-tu de notre première rencontre ? Arrête de ruminer ton reniement, reviens à la base, à ton appel. » Oui, s'il y a des allusions claires à son reniement, il y a aussi une allusion claire à son premier appel, comme si Jésus disait « Reviens à la maison, Pierre. Tu m'as renié, soit, mais mon appel demeure. Retourne vers ce souvenir-là aussi, là où tout a commencé entre toi et moi. En tout cas, pour moi, dit Jésus, rien n'a changé. » Jésus offre à Pierre un nouveau départ. Et cette mise en situation réveille des souvenirs peut-être douloureux, mais elle le fait dans le cadre sécurisant et sécurisé de l'amour que Jésus porte à Simon, fils de Jonas, alias Pierre le roc. Et justement, le deuxième aspect de la restauration de Pierre concerne cet amour. Jésus, par ces trois questions, va opérer un recentrage sur ce qui semble être le plus important en la matière, l'amour. Jésus pose trois fois la question de l'amour pour rappeler certainement le reniement, mais aussi pour laisser le temps à Pierre de cheminer avec cette question de l'amour et peut-être de se laisser guérir. Alors on a beaucoup parlé de la différence de verbe que Jean utilise dans ce dialogue. Ce n'est pas toujours le même verbe « aimer », il y en aurait un moins fort que l'autre que Pierre utiliserait pour répondre à Jésus, qui lui utilise le verbe « aimer » dans son sens fort pour les deux premières questions. Et puis Jésus, pour la troisième réponse, reviendrait au verbe utilisé par Pierre, c'est-à-dire le terme « moins fort », comme s'il voulait venir à son niveau, qu'il venait le chercher là où il était, Pierre, pour le mener plus loin que là où il est. C'est tout à fait dans l'esprit de l'incarnation, dans l'esprit avec un grand E, que Jésus vient nous chercher là où nous sommes, dans son amour, dans notre amour pour lui, et qu'il veut nous mener plus loin que là où nous en sommes. Mais ce qui est important quand même, c'est ce recentrage sur l'amour de Pierre pour Jésus, et cela par trois fois. Il est probable que Pierre s'attendait à d'autres questions du genre « Et au fait, Pierre, pourquoi m'as-tu renié ? Pourquoi as-tu fait ceci et pas pourquoi cela ?» Ça, mes enfants et mon épouse le diraient, c'est plutôt mon genre. Quand quelque chose se passe, je pose toujours la question du pourquoi. Mais ces questions du pourquoi, on n'a souvent pas de réponse. On ne sait pas. Mais Jésus ne pose pas ce genre de questions. Peut-être aussi que Pierre se posait lui-même une autre question, celle de savoir si Jésus l'aimait encore, après ce qu'il avait fait. Mais pour Jésus, cela semble hors propos. Il lui parle de son amour, de l'amour de Pierre, pour lui, pour Jésus. La question clé, la question de la relation que Pierre veut avoir est la question de la relation que Pierre veut avoir avec son Seigneur. S'il lui est prêt à repartir dans une relation vivante et authentique avec Jésus, jusque dans la vie éternelle, puisqu'il en a les paroles, Jésus. Et Pierre répond qu'il l'aime, trois fois aussi. Mais pour le prouver, il ne fait pas appel à toutes ses actions passées, à ses déclarations lancées à la cantonade. Il ne fait pas appel, comme une preuve, à ce glaive qu'il a dégainé devant les gardes qui venaient arrêter Jésus. Il n'en appelle pas non plus à la comparaison avec les autres. « Moi, je ferai mieux que les autres. » On note d'ailleurs, en passant, que Pierre a des grands problèmes avec la comparaison. Il se compare aux autres disciples, et puis à la fin de notre récit, de Jean 21, il se compare aussi à Jean. Il est dans la comparaison, Pierre. Il est parfois même dans la compétition, et Jésus va le travailler à ce niveau-là aussi. Mais Pierre, là, dans sa réponse aux questions de Jésus, ne va pas s'appuyer sur tout cela, mais il va en appeler à la connaissance que Jésus a de toutes choses. « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et je ne sais pas si on peut parler d'un cœur brisé pour Pierre, comme dans le psaume 34, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Mais il me semble qu'on n'en est pas loin. Ce qui faisait sa fierté d'homme, son impulsivité, ses coups d'éclat est tout à coup brisé comme un vase en mille morceaux qui jonchent le sol, ou plutôt plage. Pierre fait appel à Jésus. Tu sais toutes choses. Pour qu'il sonde son cœur et qu'il voie son amour, son engagement de disciple débarrassé de ses fioritures et de son décorum, un amour vrai, un engagement humble. Je ne sais pas si on peut le dire comme cela, mais j'ai l'impression que Pierre a mûri d'un coup. Jésus lui a permis d'aller à l'essentiel ou de revenir à l'essentiel. L'amour au cœur, non seulement du ministère de Pierre, mais au cœur de sa vie d'homme. Avec ce retour à l'essentiel de l'amour, Pierre va pouvoir être de nouveau tellement utile pour Jésus et son royaume. Beaucoup plus utile que Pierre, ancienne version en tout cas. Le Pierre nouveau est arrivé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors en parlant d'utilité et de service, cela nous amène au troisième point de la restauration de Pierre, la réaffirmation de sa mission. Après chaque réponse de Pierre, et dès la première, Jésus réaffirme la mission de Pierre, celle de s'occuper ou de faire paître ou d'être le berger des brebis. Et Jésus prend soin de le faire en public. Il réaffirme toute la confiance qu'il a envers Pierre. « Prends soin de mes brebis, sois le berger de mes agneaux, fais-les paître sans les envoyer paître. » Et j'imagine combien ces mots ont pu faire du bien à Pierre, qu'ils ont pu agir comme un baume sur son cœur. Lui qui se demandait s'il avait encore une place dans le royaume, si on pouvait encore lui faire confiance alors qu'il n'avait même plus confiance en lui-même. Jésus, lui, de nouveau lui fait confiance et le réinstalle dans sa mission et son service. Jésus n'utilise pas de formule de pardon, il ne dit pas à Pierre « je t'absous et je te pardonne », etc. Mais il lui donne sa confiance et cela vaut toutes les formules d'absolution. Et puis Jésus va encore plus loin, il va aussi lui dire « suis-moi ». Certains pensent qu'il s'agit d'un ordre tout à fait pratique du genre « on y va ». Mais quand on connaît le sens du mot « suivre » dans le Nouveau Testament, cet ordre, si c'est un ordre, cet appel de Jésus n'est pas anodin, d'autant qu'il est à l'impératif présent, qui en grec signifie la durée ou signale la durée. On pourrait traduire « continue de me suivre », dit Jésus. Et il y a là un véritable appel à redevenir un disciple de Jésus qui suit le Maître, qui marche dans ses traces, qui cherche à l'imiter, qui prend sa croix. Et à la fin du récit, l'image du vieil homme à qui l'on étend les bras et qui est mené là où il ne veut pas aller illustre la crucifixion prochaine pour Pierre. Il mourra crucifié sous Néron en 68 ou 69, une trentaine d'années après. Et il semble que le nouveau Pierre est prêt à vivre maintenant et pleinement ce que l'ancien Pierre avait déclaré de façon péremptoire : « Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » À l'époque de cette déclaration, il n'était pas prêt, mais maintenant il l'est. Il va pouvoir vivre comme un disciple de Christ parce que Jésus lui a dit toute sa confiance, parce que Pierre est restauré, il va pouvoir suivre son Seigneur dans une vie de disciple et de témoin du Christ ressuscité. Alors, il reste Pierre, hein, avec son impulsivité et son caractère impétueux, mais le poids qu'il traînait derrière lui comme un boulet ou qu'il poussait devant comme un rocher sur une montagne, ce poids a été non pas déposé, comme on le dit souvent, mais il a été pris par Jésus. Parce que c'est Jésus qui prend l'initiative de la restauration de Pierre. Et c'est lui qui prend l'initiative de notre restauration. Oh, nous ne sommes pas Pierre, nous nous gardons bien de faire des déclarations de courage pour ne pas être pris en défaut plus tard. Et donc on ne risque pas de faire marche arrière comme Pierre. Mais nous avons nos fardeaux, nous avons nos poids, nous avons nos lâchetés, nous avons des petits trucs qui ne vont pas. Toutes ces choses qui minent notre confiance et notre amour pour Dieu et son service. Dieu veut notre restauration. Dieu veut nous renouveler sa confiance et renouveler notre confiance en lui et en nous. Il y a une place pour chacun dans le royaume et à son service. Notre Dieu est celui de la grâce, de la seconde chance et même de la troisième ou de la quatrième. Il est le Dieu du renouveau, de la réinstallation, du rétablissement, de la restauration. Dieu nous attend autour d'un bon repas fait de poissons grillés et de pain frais. Il nous faut juste accepter l'invitation et nous laisser restaurer. Amen.
Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière.
bien avant que Jésus marche sur la terre. Bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi.
Prions. Tu es Seigneur et malgré notre insignifiance et nos doutes, nous nous tournons vers toi parce que tu es un Dieu d'amour en Jésus-Christ. Il nous a réconciliés avec toi et cette prière d'intercession dans ce culte si particulier est aussi une façon de proclamer que ton Église est rassemblée par ton Esprit au-delà de nos murs et de nos prisons. Nous sommes confinés mais nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est ensemble, en tant que communauté, que nous voulons intercéder en faveur de ce monde en souffrance, que tu es venu sauver, ce monde à la fois puissant et maintenant si fragile, ce monde qui est toujours suffisant mais qui est maintenant au pied du mur et tu le connais mieux que nous-mêmes, Seigneur, ce monde, tu le vois tel qu'il est et tu l'aimes. Alors sauve-le, Seigneur. Nous te présentons notre pays, ses dirigeants, devant ce défi, de diriger un pays menacé, une planète attaquée de toutes parts par un virus. Donne-leur une part de ta sagesse pour faire les bons choix. Pour tout le personnel médical et la police et l'armée de personnes engagées pour le bien de tous, nous te prions, pour eux, Seigneur. Nous te les remettons, nous sommes reconnaissants de leur travail, de leur dévouement, que la paix de Christ soit sur eux. Toutes les familles dans le deuil ou face à la maladie, nous te les remettons et nous pouvons les nommer. Nommer celles que nous connaissons parmi nos proches, mais aussi nos voisins, nos amis, nos collègues. Nos familles, proches ou lointaines, sont dans tes mains, Seigneur. Sauve et parle à chacun. Nous te prions pour nos frères et sœurs en Christ qui sont aussi secoués, éprouvés, fatigués, même parfois troublés. Encourage-les, Seigneur. Nous te présentons ton Église de Cannes. Tu connais ses faiblesses et ses forces. Parle-nous, Seigneur. Motive-nous. Fais-nous avancer dans les voies que tu as déjà préparées pour nous. Bénis Éric et Yvonne dans ce ministère si particulier qu'ils ont su si bien mettre en route. Que notre relation en toi s'enrichisse pour, dans le malheur, être présent au monde et à ses souffrances, Rends-nous ingénieux et généreux pour toi, Seigneur. Dans l'attente de ton retour, nous implorons ton aide. Préserve ton Église de toute suffisance, rends-nous humbles et compatissants, ouverts sur le monde malgré le confinement, pour porter ton témoignage là où tu le désires. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Nous aurons notre temps d'offrande virtuelle. Je lisais dans le livre des Chroniques, hier matin, l'histoire de la restauration du temple sous le roi Joas. Et j'ai été surpris par un verset, mais le chroniqueur parlait de la joie qu'il y avait parmi le peuple d'Israël à donner pour la restauration du temple. C'était il y a 3000 ans. Et je me disais que cette joie pouvait et devait continuer. La joie et la confiance que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Nous comptons donc sur votre joie à participer à la vie de l'Église et de l'Union des Églises évangéliques libres de France. Vous avez l'adresse de Jane sur l'écran pour les chèques éventuels, mais en même temps, on voulait vous le redire, le virement régulier serait le plus facile et serait le plus paisible pour tous en ces temps compliqués à tous les niveaux. Pourquoi ne pas essayer le virement? Vous avez aussi le RIB de l'Église. Affiché, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Mais le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Quelques annonces. Mardi, le groupe de Maison de Cannes se retrouvera sur une plateforme pour avoir un temps ensemble. Je sais que le groupe de Maison de Grâce l'a déjà fait sur Skype. Donc voilà, on essaye de se voir malgré tout dans les différents groupes de maison. Mercredi, la méditation de la mi-semaine par mail, vendredi 24 à 14h, ou quand vous voulez, une rencontre de prière ensemble, chacun chez soi. Dimanche prochain, 26 avril, le culte sera sur le site aussi. Mais petite annonce, pour le dimanche 10 mai, la veille du déconfinement, nous aurons un culte en commun avec les églises libres de la région PACA, sur YouTube, mais à 10h30 sur YouTube, on sera tous. Donc c'est un culte qui sera alimenté par toutes les églises, un chant, une intervention des responsables, etc. Donc voilà, le 10 mai, c'est une bonne occasion de s'ouvrir un petit peu à l'extérieur et puis à l'union des églises dans notre région. Donc c'est avec Aix-en-Provence, Marseille, Aubagne, Avignon et Cannes. J'ai noté aussi que la Fédération protestante de France nous envoyait, enfin avait mis sur pied un numéro vert d'accompagnement spirituel dans ces temps de confinement. C'est le 0805 380 222. J'ai trouvé que c'était une belle initiative pour tous ceux qui aimeraient téléphoner. Voilà, j'en ai terminé pour les annonces. Nous continuons à prier. Les sujets de prière sont nombreux, mais continuons à prier pour le sel et pour nos amis missionnaires, Manu et Georges à Kinshasa, les Roland à Mayotte, les Galarato à Madagascar et pour tous ceux que nous connaissons et qui sont peut-être au loin. Prions aussi pour les régions du monde avec le sel qui vivent des temps extrêmement difficiles. En plus de la crise sanitaire, ils vivent des crises alimentaires. Merci. Je vous propose une parole d'envoi. Seigneur, nous avons écouté ta parole, nous avons médité l'Évangile, nous avons dit nos peurs dans notre prière, notre inquiétude et nos fardeaux. Nous avons accueilli la grâce et l'Esprit, le pardon et la restauration. Maintenant, Dieu nous envoie pour être témoins par la parole et par le geste. Il nous envoie dans les nations et dans nos maisons. Au lointain et chez nos prochains. Le Christ est ressuscité, il est avec vous tous les jours, que la promesse de sa présence, la certitude de sa délivrance et le souffle de son espérance soient la racine de votre foi, la vérité de votre combat et la source de toute joie. Bon dimanche, à bientôt.